France Inter. Le masque et la plume. L'actualité littéraire au programme du Masque aujourd'hui avec le nouveau roman de Delphine de Vigan, Je suis Romane Monnier, personnage dont on découvre la vie à travers le contenu de son portable. À quoi, suite de la série romanesque que Gaspard Koenig consacre aux quatre éléments, la première fiction d'Hélène Coutard intitulée Explosive qui met en scène des activistes féministes, le bien nommé Départ, livre ultime de l'auteur anglais Julian Barnes, et une histoire de Billy the Kid imaginée par Éric Vuillard. Pour en débattre, quatre critiques, Elisabeth Philippe du Nouvel Obs, Laurent Chalumeau, auteur qui livre ses critiques sous le pseudo de Larry Blowtorch sur Instagram, Patricia Martin de France Inter et Philippe Trétiac, auteur. Je termine ce sommaire avec les mots de Julian Barnes s'adressant à ses lecteurs. J'espère que vous avez pris plaisir à notre relation au fil des ans. Votre présence m'a ravie. De fait, je ne serai rien sans vous. Pourquoi, mais pourquoi mettre des premiers romans au programme du Masque si vous les dézinguez, me demande une auditrice. Alors, d'une part, un bon nombre de premiers romans ont déjà fait l'objet de louanges à la tribune. D'autre part, il est question de faire le pari de découverte par les critiques de l'émission et par vous, auditeurs, auditrices, au milieu de noms plus établis. C'est d'ailleurs le premier roman de Marion Quentin, intitulé « Mon cadavre exquis », qui vous fait prendre la plume cette semaine au sujet de ce huis clos où une fille embaume le corps de son propre père. Prune Faro de Paris 12e écrit « Après vous avoir écouté, j'étais plombée à l'idée de commencer ce livre. Aussi, quelle fut ma surprise de découvrir la force et la sensibilité qui se diffusent dans ce premier roman d'une grande maîtrise littéraire, sans parler de l'idée originale et particulièrement habile de faire de la narratrice une thanatopractrice. Agnès de Paris 3 dit avoir été touchée par ce livre puissant et singulier. Laurent Dominici, quant à lui, revient sur le premier roman de l'américaine Rita Bullwinkle, intitulé « Combat de filles ». Nous en avions débattu il y a quelques semaines à Poitiers. Et cet auditeur s'adresse à vous. Vous assisterez non seulement à un match de boxe dans une salle piteuse du Nevada, mais vous serez surtout dans la tête de jeunes sportives pour vivre leur présent, découvrir leur passé et un peu de leur futur. Nul besoin d'aimer la boxe pour apprécier ces 224 pages. Ma belle-mère l'a dévoré. Combat de filles de Rita Bullwinkle, apparu aux éditions La Croisée dans une traduction d'Hélène Cohen. Enfin, sur Instagram, Lucas m'écrit « Adoré l'imparfait » d'Éric Reinhardt, publié chez Stock dans la collection Ma nuit au musée. « Je n'ai pas les moyens de m'offrir un aller-retour à Rome », écrit cet auditeur, « mais grâce à ce roman, j'ai passé la nuit aux côtés de l'hermaphrodite de la Villa Borghese. Je précise qu'il m'en a coûté 19,90 €. » Et on commence avec « À quoi ?» de Gaspard Koenig. Après le succès et le prix interallié qu'a remporté « Humus », où il était question de la terre, de l'épuisement des sols et des lombriques, « À quoi ?» est le deuxième volet de la série romanesque que Gaspard Koenig consacre aux quatre éléments. Comme dans « Humus », le roman est situé dans le bocage normand, à Saint-Firmin, petit bourg installé au bord d'une rivière. Des élections municipales vont se tenir et la gestion de l'eau en sera l'enjeu principal. Deux candidats s'opposent, Maria, émigrée roumaine devenue l'une des figures de Saint-Firmin. Maria est partisane d'une gestion de l'eau strictement locale. Face à elle, Martin Jobard, enfant du pays devenu haut fonctionnaire à Paris, qui cherche un mandat local comme tremplin à des ambitions politiques plus vastes. Martin prône, lui, une gestion de l'eau intégré à un réseau départemental. Autour d'eux, Gaspard Koenig met en scène une galerie de personnages, un fromager, une naturopathe bouddhiste, un agriculteur qui a recours aux pesticides, une communauté donc dont les membres ont des intérêts et des points de vue divergents. La sécheresse qui frappe Saint-Firmin va ébranler les convictions de chacun et questionner l'exercice de la démocratie locale. Elisabeth, toi qui aimes l'eau.
Oui, absolument. Alors, j'aimais un peu moins la terre, puisque j'avais de façon complètement arbitraire, enfin non pas totalement arbitraire, mais en tout cas décerné le prix de la pire scène de sexe à Humus au moment de sa sortie.
Le volet précédent, donc.
Le volet précédent, parce que pour rappel, donc c'était il était question des vers de terre, et l'un des personnages, qui fait une apparition d'ailleurs dans Aqua, était très émoustillé, tellement émoustillé par l'accouplement de Lombric, qu'il se déculottait et qu'il forniquait la terre. Donc, au moins Gaspard Koenig, dans un de ses blogs, avait eu l'élégance d'en rire. Il avait pris note qu'il avait gagné le prix de la pire scène
là,
de sexe.
Il remet son titre en jeu.
Alors, j'étais un peu déçue, parce qu'il y a certes quelques scènes de sexe, mais qui n'atteignent pas le niveau de cette scène sous les yeux, je ne sais pas si on peut dire sous les yeux des lombriques, mais donc il n'y a pas de scène de ce niveau-là. Pour autant, et finalement c'est peut-être une bonne chose, parce que moi j'ai pris plus de plaisir, l'enchaînement est un peu bizarre, plus de plaisir à lire ce bouquin, dans le sens où j'ai l'impression que Gaspard Koenig fait davantage monde de tous ses talents de satiriste. Il y a un côté presque flaubertien dans la façon dont il montre les petites guerres picrocollines à tous les niveaux de pouvoir, que ce soit au niveau du village, enfin de la petite commune de Saint-Firmin avec les conseils municipaux, ce qui s'appelle la Comcom, la communauté de communes, et puis aussi au niveau plus haut de l'État, puisque on est aussi dans les coulisses des ministères. Il y a même un personnage
que Gaspard Koenig a connu lui-même,
et d'ailleurs il se met certainement, c'est certainement lui qui met en scène sous le nom de Gaspard, puisque il y a un personnage qui s'appelle Gaspard qui est plume dans un ministère, et effectivement Gaspard Koenig a été lui-même plume de
Christine Lagarde quand elle était ministre de l'économie.
C'est ça. Donc toutes ces descriptions de ces milieux de pouvoir petits ou grands, je trouve qu'il le fait vraiment vraiment très bien, même s'il y a un côté un peu répétitif au bout d'un moment, c'est-à-dire que là-dessus il est intarissable, contrairement à La Source de Saint-Firmin, et ça c'est un peu au bout d'un moment ça peut être un peu, on se noie finalement dans tous ces détails, même si le sujet est extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'on fait de l'eau, ce bien commun qui, on le sait, est menacé? Est-ce que ce sont les entreprises privées qui doivent avoir la main dessus? Est-ce que ce sont les habitants des communes, ou bien est-ce que c'est l'État? Je ne suis pas sûre qu'il tranche réellement, ou en tout cas, je n'ai pas tout à fait compris, lui, quelle était la solution qu'il proposait, ce qui est dommage, parce qu'il me semble qu'il fait aussi de la politique, Gaspard Koenig.
Alors, est-ce que tu as compris, toi, Philippe? Attention, Elisabeth a dit intarissable, on se noie, tu vas filer la métaphore aquatique pour à quoi?
Non, je pensais quand Elisabeth parlait de humus, qu'il aurait pu l'écrire en vers, vu l'histoire des lombriques.
Ok.
Mais bon,
t'es prêt pour les mots croisés?
J'avais juré que je tomberais pas justement dans le. Je me suis noyé dans un roman fleuve, etc. Enfin,
parce que là, pour toi, remercie-moi.
On en a. Bon, je trouve que pour moi, c'est un livre très intéressant. Je trouve qu'il mérite d'être vraiment lu, même si je trouve qu'il y a peut-être 100 pages de trop, incontestablement. Ça m'a rappelé Clochemerle, là, roman 1934 pour les plus jeunes. Ils n'ont pas connu ça, mais moi, bien sûr. 1934. Vendu à 1 million d'exemplaires, je crois, qui racontait l'installation d'une Vespasienne dans un village. Et bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une espèce, c'est vrai, c'est une satire de la province ou des territoires, comme on dit aujourd'hui.
Mais pas seulement, parce que l'État aussi en.
Mais aussi, je trouve que pour aller vite, parce que je suis d'accord, on a tout ce qu'on a dit. Il sait camper les histoires, les personnages sont vivants, etc. Je dirais pour moi qu'il y a deux problèmes. D'abord, peut-être que c'est un peu long, je l'ai dit.
Oui.
L'autre, il me semble que c'est un autre problème, peut-être plus général et qui est intéressant du point de vue littéraire, je trouve, c'est que comme ces personnages prennent de l'importance, que ce soit Maria, que ce soit Martin, etc., au bout d'un moment, je trouve qu'ils se perdent tous les uns les autres, parce qu'en vérité, il me semble que le véritable personnage du livre, c'est l'eau. Et à ce moment-là, il y a un truc un peu bizarre dans
le
livre.
C'est le personnage qui ouvre le livre, d'ailleurs.
Absolument, parce qu'il y a un truc un peu bizarre, je trouve, dans le livre, c'est que finalement, on ne sait plus très bien ce qu'on suit. Et
donc,
il me semble que c'est un peu aussi pour ça qu'on se perd dans le roman.
Il y a un moment où tu ne savais plus qui était qui.
Oui, non, on sait quand même qui c'est, mais ça perd un peu de l'importance, finalement, parce que je trouve qu'on ne sait plus si c'est l'histoire de l'eau du village ou si c'est les personnages. Je trouve que là, il y a un jeu un peu subtil qui n'est pas extrêmement maîtrisé. Puis par ailleurs, je trouve que la fin. Du livre, on aurait pu attendre un cataracte, c'est un goutte à goutte, quoi. C'est un peu fait.
Et voilà, tu l'as fait.
Voilà, je voulais vous montrer qu'on ne peut pas y échapper.
Alors, tu es bien Laurent Chalumeau?
Je ne sais pas, je vais vous laisser juge. Non, je ne vais pas m'aventurer sur le fond, je vais m'en tenir à la forme, mais ça tombe bien, les deux sont liés. Comme vous l'avez dit, c'est très adroit, c'est quelque chose qu'on sera toujours obligé de laisser à l'auteur.
Ça commence bien.
Il y a des moments où, ouais. toutefois, où, par-delà son adresse, il y a sa volonté de nuire se retourne contre son dispositif. C'est-à-dire que déjà, bon, c'est bien fait, mais pas tant que ça, si on commence à passer au ping-pong.
Pourquoi volonté parce de que, nuire.
Parce qu'il y a des moments où il y a des sautes de voltage, où le persiflage ostentoirement subtil vire à la grosse farce tarte à la crème, avant de se reprendre et de retrouver son petit ton goguenard de droite. Mais ça, à la limite, c'est pas grave. Ce qui est plus fâcheux, c'est de voir comment la satire empêche tous les personnages d'accéder justement au statut de personnage, parce qu'il n'existe que comme faire valoir et souffre-douleur de l'auteur. Tu parlais de Flaubert, c'est intéressant, parce
oui,
que comme là, notre homme exerce dans ce qu'on pourrait qualifier de néo-naturalisme, c'est intéressant de se demander comment on peut être un narrateur omniscient sans pour autant être un narrateur méprisant. Là, il y a un problème de surplomb, comme on dit de nos jours. Il faudrait peut-être retourner, comparer avec d'autres auteurs du bocage, Flaubert, Maupassant. Bon, il y a des moments où les vapeurs de supériorité que son texte dégage...
Donc, vapeurs de supériorité de lui par rapport à ses personnages.
Oui, c'est ça. Lui monte à la tête et alors il prend la confiance. Il s'autorise des fantaisies, comme par exemple cette scène de viol qui est d'une totale gratuité dramaturgique et dont on peut espérer qu'elle a irrigué les corps caverneux de l'auteur au moment où il a fantasmé, parce que comme ça, au moins, elle aura servi à quelque chose. De toute façon, tout ce qu'il faut retenir du texte, c'est que Gaspard Koenig est plus malin que tout le monde et que la République est toxique. La vraie pollution, c'est l'État et la Terre ne ment pas. Alors, est-ce qu'on peut prendre du plaisir à la lecture d'un livre si fanatiquement libertarien qu'il en devient néo-pétainiste? La réponse est oui. C'est ça qui est très...
Néo-pétainiste?
Mais oui, c'est pas désagréable à lire. Quand bien même ça a vocation à empoisonner l'eau du puits démocratique, mais on reste, en tout cas ce fut le cas pour moi, avec un mauvais goût dans la bouche.
Patricia ? Alors,
moi, je suis restée avec un très bon goût dans la bouche. Je trouve que tu simplifies à dessein pour supporter ce que tu penses. C'est difficile, c'est périlleux même de partir du...
C'est éclairant de voir que formule te vient à l'esprit, s'agissant de Gaspard Koenig.
Patricia.
C'est difficile, voire périlleux, disais-je, de partir d'une idée et précisément et d'une conviction pour écrire un roman. C'est pas si simple que ça. Et ce roman, je suis désolée, il fonctionne. Alors c'est vrai que quelquefois, les personnages, mais il les maltraite pas. Il a pas une position de surplomb, ou alors tout romancier a cette position-là vis-à-vis de ses personnages. Il les manipule un peu, mais ce sont des vecteurs d'idées qu'il a. Et je trouve ça quand même vachement mieux d'écrire un roman qui sera lu par beaucoup plus de gens que d'écrire un essai sur l'eau.
Très théorique.
Or, il dit quand même énormément de choses sur l'eau, sur la façon, effectivement, dont ça fonctionne, dont on sent, beaucoup se gavent, parce qu'on pollue d'un côté, ça rapporte, on dépollue de l'autre, ça rapporte aussi. Je suis désolée, mais ça, je mets des guillemets, c'est pas moi qui parle, mais la cristalline, par exemple, l'eau de source, qu'on va tous acheter dans des bouteilles en plastique et qui nous coûte la peau des fesses, mais c'est de l'eau de source comme tu as au robinet.
Déguster, c'est à 11h le dimanche.
Non, mais ça veut dire qu'il y a un... Non, mais il y a quand même... Ce sont des affaires. C'est du business. Il y a 1 million de personnes en France aujourd'hui qui boivent de l'eau non conforme. Et il montre bien comment, au fond, notre système est malade, notre Occident est malade, les animaux sont malades, les hommes le sont et la Terre l'est aussi. Donc, je trouve qu'on touche le fond de l'absurde et ce roman le met très bien en scène, sans parler des énarques et des rastignacs aux petits pieds qui grouillent dans les ministères. Je trouve que c'est... Moi, j'ai pris vraiment du plaisir à lire ça, parce que c'est ça, en fait. Ça grouille.
À quoi de Gaspard Koenig est publié par les éditions de l'Observatoire. On continue avec Je suis Romane Monnier de Delphine de Vigan, l'une des écrivaines françaises les plus lues depuis Rien ne s'oppose à la nuit, paru en 2011. À l'occasion d'une soirée dans un restaurant, une jeune femme échange volontairement son téléphone portable avec un inconnu et lui en donne le code d'accès. L'homme en question se prénomme Thomas. Il entre dans le téléphone de cette femme comme s'il entrait dans sa vie. Il découvre qu'elle s'appelle Romane Monnier et en apprend bien plus en consultant les messages, applications, conversations enregistrées que contient le téléphone. Autant d'archives intimes reproduites dans plusieurs chapitres. Romane semble organiser sa disparition progressive et Thomas veut la faire apparaître. En cherchant à savoir qui elle est, il trouve des échos avec son propre parcours, son enfance, ses amours, sa vie de père seul avec sa fille. Alors il est évidemment question de la place des portables dans nos vies, des traces qu'on laisse et de motifs qui parcourent toute l'œuvre de Delphine de Vigan, comme la disparition ou les traumas d'enfance. Philippe.
Bon, évidemment, l'intérêt du livre de Delphine Le Vigan, c'est que c'est un roman d'abord sociologique, c'est-à-dire elle s'intéresse à un objet technique que nous avons tous, dont on a compris évidemment qu'il était devenu un parasite. C'est plus nous qui le dirigeons, c'est lui qui nous dirige. Il nous suce nos informations, il sait ça. Déjà, c'était une bonne idée d'avoir pris le téléphone portable comme base d'un roman. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que ça lui permet, dans un certain sens, de renouveler le thème de l'enquête. On n'ouvre pas des tiroirs ni des armoires.
On ouvre des applis.
On fouille pas dans les coffres de voiture, mais on regarde un téléphone. Tout ça est très subtil. Je trouve qu'en plus, elle a une écriture qui est très fluide. Je trouve que les dialogues sont crédibles, les noms sont crédibles. Tout ça, c'est déjà pas mal. Mais je dirais que, comme ces personnages sont tous plutôt aimables, plutôt sympathiques, ça pose une question, c'est est-ce qu'on peut faire de la bonne littérature avec des bons sentiments ? Et sur le fond, en vérité, je crois pas. C'est-à-dire que je dirais qu'il y avait autrefois ce qu'on appelait le réalisme socialiste. Et puis là, on se retrouve dans une espèce de réalisme capitaliste. C'est-à-dire qu'on nous décrit ce qu'on voit. Quand je lis Delphine Le Vigan dans Télérama, par exemple, qui dit « Je suis ravi quand mes lecteurs disent « Ah, c'est bien ce que je ressens », eh ben, c'est tout à fait pour moi le problème, c'est que la littérature, ça ne doit pas me faire lire ce que je ressens, mais m'amener à quelque chose que je n'avais pas ressenti, c'est-à-dire quelque chose justement qui m'ouvrirait au monde. Et donc je trouve que c'est la limite de ce roman qui se lit, qu'on peut lire, que je condamne pas du tout, mais dont je trouve qu'il a une platitude quand même qui fait qu'à la fin, j'ai eu l'impression quand je l'ai refermé que c'était comme une sonnerie de téléphone qui déjà s'évanouissait, il disparaissait déjà. Parce qu'en fait, tout ce qui arrive au personnage est quand même extraordinairement convenu.
Téléphoné, tu veux dire
Exactement, je ne pouvais pas dire mieux. Et en certains sens, voilà, je trouve que c'est vraiment la grande limite du livre.
Elisabeth.
Alors, je trouve des limites à ce livre, mais pas celles que met en avant Philippe. Effectivement, elle sait très bien mettre en forme romanesque les mutations du monde. Delphine de Vigan l'avait déjà fait avec Les Enfants sont rois sur YouTube, les réseaux sociaux et leurs dangers. Là, elle prend la forme du polar une fois de plus, avec ce téléphone qui devient comme une boîte noire de nos existences, jusque dans les replis les plus intimes, puisqu'il y a le suivi du sommeil, le suivi des flux menstruels, etc. de Romane Monnier. Je trouve qu'elle a l'élégance Delphine de Vigan, de ne pas le faire à travers une fable édifiante ou un peu surplombante, justement. Elle y met un peu d'humour, un peu de fantaisie. La narratrice ou le narrateur intervient dans des parenthèses, dans des formes de didascalie qui mettent un peu d'humour là-dedans. Ça passe aussi par le personnage de Thomas, que je trouve extrêmement attachant, peut-être parce qu'il représente justement le monde d'avant la numérisation. Il travaille dans une boutique de reproduction, d'impression, de reprographie, oui. Et donc, il représente le monde du papier. Et puis, il a cette relation avec sa fille. Il est un petit peu largué. Il mange des madeleines chimiques. Enfin, il est assez touchant pour ça. Il donne des surnoms très drôles à ses voisins. Il y en a un qui l'appelle Jean Reich, l'autre Jean Slip. Il y a une voisine qui s'appelle Mylène Farmer. Bon, tout ça le rend attachant. Le gros problème du livre, pour moi, c'est le personnage de Romane Monnier. Et surtout la forme littéraire que lui donne Delphine de Vigan. C'est-à-dire qu'on ne la connaît que par ses messages, ses SMS. Et ça donne des pages d'échanges de SMS absolument niaiseux.
Oui, qui sont comme scripté, en fait.
Ouais, mais c'est terrible. Quand elle parle de son histoire d'amour, elle est là. J'étais raide dingue ligotée. À un moment, il y a toute une série d'échanges avec sa meilleure amie. Elle se dispute pour un épluche légume. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des pages assez pénibles et fastidieuses. Donc, et elle est très ombrageuse, Romane Monnier. Elle est très. Donc, Delphine de Vigan veut en dire trop, veut donner trop d'explications au malaise de Romane Monnier. Là où finalement, elle le touche qu'à la fin de son livre, et je ne divulgage pas, il y a effectivement de quoi être terrifié par le monde qui s'offre à nous et qui se dessine complètement régi par la technologie, mais ça, elle ne l'aborde qu'à la toute fin, et je trouve que c'est un peu dommage.
Tu opines du chef,
ouais,
Patricia.
Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Elisabeth, parce que c'est vrai que moi, j'ai préféré Thomas à Romane. Thomas, t'as envie de le rencontrer, t'as envie d'aller dîner avec lui, voilà. T'as envie de lui parler. Mais non, mais évidemment. Alors, du côté de Romane, il y a des longueurs. C'est vrai qu'il y a des moments où moi, je me suis un peu... Mais ça, c'est peut-être aussi l'éditeur qui aurait pu dire, mais coupe un peu. Mais je trouve que ce qui est formidable, là où elle, effectivement, alors ça va peut-être pas te plaire, Philippe, mais Thomas, au fond, il est coupable d'une terrible indiscrétion. Parce que aller fouiller, mais c'est.
Mais sinon, il n'y a pas de livre.
Ouais. Il n'y a pas de livre. Il pourrait y avoir un autre livre.
Il pourrait
y avoir un autre livre où il serait horriblement antipathique. C'est-à-dire que, un, elle, finalement, implicitement, ou même pas tellement implicitement, Romane, elle l'autorise à aller fouiller, et deux, ils ne se connaissent pas. Donc ça va, c'est bon. Mais ça pose quand même la question de qu'est-ce qu'on fait du portable, de notre portable.
Quand est-ce que tu publies ton prochain roman, Patricia ?
Non, mais qu'est-ce que tu en fais ? Qu'est-ce que tu fais de tes textos, des échanges avec les autres, de tes photos, des vidéos, de cette intimité-là ? Qu'est-ce que ça devient d'une manière générale ?
C'est le problème, c'est la question que pose le
livre. Et sur les traces qu'on laisse ou qu'on ne veut pas laisser, qu'on sera peut-être tenté d'effacer complètement. Je suis sûre, Laurent, que tu as plein de trucs à te reprocher et que si tu sais avant que tu vas mourir, tu vas tout effacer. J'en suis certaine, ne fais pas cette tête, ne me regarde pas comme
tout,
ça.
Parce que, après moi, le déluge.
Ah oui, franchement. Oui.
Au contraire, comme ça, je laisserai un bon souvenir. Oui. Parce que les gens sauront enfin tout.
Qui
non,
tu es ?
C'est une bonne idée, à l'évidence, vous l'avez tous dit. Ces jours-ci, de choisir un téléphone comme personnage principal. Je trouve qu'elle se débrouille plutôt bien, justement, dans la façon dont elle retranscrit, dans la façon dont elle saute d'une application à l'autre et dont elle fabrique du récit à partir de ça. Je trouve aussi qu'on peut lui donner quitus, comme on dit, de raconter son époque, ou du moins d'essayer, plutôt que sa généalogie. Donc oui, elle raconte
le livre sur sa mère, excuse-moi, était formidable.
Elle raconte son époque, mais le problème, c'est qu'elle n'en dit rien, parce qu'il n'y a pas de point de vue, à part une bienveillance bienvenue vis-à-vis des personnages, et en ces temps où tout est clivé et à couteau tiré, un petit bisou sur la joue, c'est vrai que ce n'est pas désagréable. À part cette bienveillance, donc, oui, elle ne dit pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas de point de vue, et... C'est ça le pire, il n'y a pas de point de vue non plus sur la langue. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un livre, pas maladroit dans son exécution, mais qui est rédigé dans une langue qui se convient comme elle est. Elle va être ni malmenée, ni enrichie, ni dénoncée comme instrument de domination, ni célébrée comme possible arme de résistance. Donc c'est fâcheux quand on veut faire œuvre littéraire, parce que ça vous met d'emblée hors du champ littéraire, si on n'a pas de point de vue sur la langue. Donc, on sent bien que l'autrice écrit du mieux qu'elle peut. Ce qui est fâcheux, c'est que, du fait même de cette absence de point de vue, eh ben, elle peut peu avec de moyens.
Je suis Romane Monnier de Delphine de Vigan et publiée chez Gallimard. On va parler maintenant des Orphelins, une histoire de Billy the Kid, titre du nouveau roman d'Éric Vuillard, prix Goncourt 2017, avec l'ordre du jour. Alors après avoir raconté l'envers du rêve américain à travers la figure de Buffalo Bill, Éric Vuillard poursuit son histoire subjective des États-Unis en s'attaquant à une légende de la conquête de l'Ouest, Billy the Kid. Donc, dans la vie forcément imaginaire, puisqu'on sait très peu de ce garçon qui est une machine à fiction, dans la vie de Billy, imaginée par Vuillard, donc, le gosse n'est pas un voyou rebelle, mort à l'âge de 21 ans, mais un pauvre orphelin, pur produit de la violence, de la colonisation et du capitalisme. Un garçon instrumentalisé puis sacrifié par de riches propriétaires qui ont étendu leur pouvoir à l'échelle d'un pays. Une biographie imaginaire, autant que l'histoire passée, est présente et bien réelle de tout un pays. Patricia.
Il l'invente formidablement bien, parce qu'au fond, on ne sait rien sur Billy the Kid. Hein. Moi, j'ai lu ce livre comme j'ai jamais vécu un tremblement de terre jusqu'à présent, mais 163 pages comme ça et pas une de plus pour déconstruire à ce point un mythe et dire que les États-Unis, oui, sont une terre gorgée de sang. Alors bien sûr, il n'est pas le premier à l'avoir fait. Il y a des intellectuels, des historiens, des militants, évidemment, qui l'ont fait avant lui. Mais on se dit qu'à un moment donné... Même Pascal Blanchard, par exemple, quand il parle de la décolonisation ou de la colonisation plutôt française, il y a un moment où, en général, on fait la paix. Et là, il a une façon de faire ressortir les fantômes. Et un qui n'est pas un fantôme, il y a quand même Trump derrière tout ça. Enfin, moi, je l'ai vu de la première à la dernière ligne. C'est-à-dire que c'est le pays, les États-Unis, de l'appropriation, du vol... du crime, d'une vérité aménagée, c'est une fiction. Une fiction qui a été passée à la moulinette des élections. Et les élections, eh ben, ça blanchit absolument tout. Et ça donne un État, je cite Vuillard, un État torchonné. Et en fait, le desperado et le self-made man ne sont jamais que deux faces d'une même pièce. Et c'est absolument extraordinairement montré.
Philippe ?
Je pense tout le contraire. Ah. Mais absolument tout le contraire.
Comment donc ?
Et même vraiment, alors, D'abord, je trouve que c'est un livre raté. Je trouve que c'est...
On dirait
des notes pour un livre. Ce livre n'est pas un livre. C'est-à-dire, et alors, en plus, je trouve que là, on rentre dans des clichés qui sont insupportables. Je rappelle quand même
Mais pourquoi ce livre n'est pas un livre
Parce que je pense que le livre n'existe pas.
Bah, dis
que,
pourquoi, alors
Est-ce que je peux le dire
Oui. Alors, vas-y. 5, 4, 3, 2, 1, vas-y.
Merci. Non, c'est parce que, déjà, venir nous expliquer qu'on ne sait rien sur Billy the Kid, ça aurait pu donner un livre sur la légende, puisqu'on connaît l'histoire. Quand la légende devient plus importante que le réel, on publie la légende, on pouvait s'interroger sur comment se construit un mythe. C'est pas du tout la construction du livre. En plus, les photos, à mon sens, n'ont aucun sens. Mais je voudrais aller quand même plus au plus profond de ça, parce que cette idée que je trouve absolument insupportable, que les États-Unis seraient un pays que de la violence. Je rappelle quand même que les gens qui sont allés fonder les États-Unis ont quitté une terre où, par exemple, en Irlande, il y avait eu 1 million de morts de la famine en 1845. Quand même, toutes les nations se sont construites sur la violence. Donc, cette idée mais je pense que c'est pas ça le propos de Vuillard.
Non, moi, c'est mon interprétation.
Oui, mais je pense que c'est quand même autre chose. Encore une fois, je pense que le livre d'Éric Vuillard, ce serait un livre sur la fabrication d'un mythe. Mais je trouve qu'il n'arrive absolument pas à nous expliquer comment se construit ce mythe. Juste deux choses. J'ai relu quand même son prix Goncourt, qui est un livre magnifique, quand même, sur l'Anschluss. Donc, franchement, il peut faire beaucoup mieux, quoi.
Elisabeth.
Mais non, je suis assez stupéfaite de ce que j'entends, là. Laurent parlait de la langue tout à l'heure et du fait qu'il manquait de recherche littéraire dans le livre de Delphine Vigan. Bon, ça, c'est un jugement qui lui appartient. Mais alors, s'il y a bien quelqu'un qui écrit merveilleusement bien et qui fait œuvre de littérature, mais avec vraiment un L majuscule, c'est Éric Vuillard. Chaque phrase est d'une méticulosité parsemée de mots parfois rares ou désuets. Et chaque phrase abrite à la fois une empathie extrême pour son personnage de Billy the Kid et pour tous ces orphelins, pour tous ces êtres qui ont été spoliés, exploités, écrasés par la puissance de ces colons, et en même temps, donc il y a cette empathie et il y a une colère aussi toujours chez Vuillard. Et son propos n'est certainement pas de raconter comment une légende est née ou le mythe de Billy the Kid. Lui, il écrit des anti-westerns, il écrit des contre-récits, il vient corriger cette histoire qui est toujours racontée par les vainqueurs. C'est certain truisme de le dire, mais c'est bien aussi de l'écrire, et il le fait avec une maestria qui, je pense, est assez peu égalée. Et franchement, dire que ce livre n'est pas un livre, mais c'est pour moi une absurdité. C'est vraiment ne rien entendre à la littérature, mais rien.
J'entends ça. Évidemment, je trouve ça aussi absurde de dire ça, mais c'est pas grave. Mais on peut tout ce qui est excessif n'est, comme on dit, n'a aucune importance. Donc ça l'est. Mais il y a d'autres livres qu'on peut lire. Hein. L'histoire des Dalton de Ron Hansen, c'est un livre formidable.
Mais on va continuer à parler des orphelins. Donc une histoire de Billy the Kid d'Éric Vuillard. Laurent, pour terminer.
Alors, je suis pas d'accord avec des choses qui ont été dites, c'est-à-dire que démonter le mythe de la conquête de l'Ouest, il l'a déjà fait à partir de Buffalo Bill, l'histoire de
Tristesse de la Terre
dans l'Ouest, quand la légende est plus belle que la réalité, pour escamoter le génocide, on imprime la légende. Ça, il l'a fait et merveilleusement à partir de Buffalo Bill, tueur de bisons, tueur d'indiens, et devenu attraction foraine. Là, à partir de Billy the Kid, petit loupard à la dérive, j'ai l'impression que son propos est autre et qu'il ne s'agit pas tant de raconter l'Amérique, puisque ça, il l'a déjà fait, mais au-delà de l'Amérique, c'est d'éclairer la solubilité de l'ultralibéralisme et du fascisme, et inversement. Mmh. C'est-à-dire que si on se met dans les Santiago de Queixós Vuillard pour écrire son livre, à rebours de ce que s'entête à claironner les apôtres louravis du marché dérégulé qui rapprocherait les peuples, lui veut démontrer, comme il l'avait fait d'ailleurs dans l'ordre du jour, que toujours le capitalisme, non seulement selon la formule consacrée, préférera Hitler au Front populaire, mais surtout que fondamentalement, le capitalisme a besoin de la pègre instrumentalisée et de la violence criminelle pour s'implanter et prospérer. Donc c'est pas juste Trump, bien sûr, mais c'est au-delà de Trump.
Lire aujourd'hui, oui, ça a quand même une résonance particulière.
Donc voilà, après Billy the Kid de René Goscinny et le Billy the Kid de Sam Peckinpah, on a celui d'Éric Vuillard. Et quand on voit le chef-d'œuvre que lui a inspiré Buffalo Bill, le très bon livre que lui vaut Billy the Kid, moi personnellement, je suis très impatient de voir ce qu'il va nous donner à propos de Calamity Jane.
Les Orphelins, une histoire de Billy the Kid d'Éric Vuillard, apparu chez Actes Sud. On enchaîne avec Explosive au pluriel. C'est le titre du premier roman d'une jeune autrice qui s'appelle Hélène Coutard. Parmi toutes les femmes du livre, la protagoniste se prénomme Clara. Elle se définit, je cite, comme une jeune femme moyenne, mais sa colère est grande contre les hommes et depuis longtemps. Ces rencontres vont théoriser et faire exister cette colère et le roman prend des allures de récit initiatique. Provinciale montée à Paris, Clara fait la connaissance d'Harry, une jeune femme qui la fascine et qui va l'enrôler dans un groupe d'activistes féministes terroristes. Et le roman prend alors des allures de polar. Hélène Coutard écrit la réalité du sexisme, explore les mécanismes de domination autant que la manipulation d'une femme par une autre et les impasses de la violence. La parole est au messieurs. Philippe.
Ah, alors, moi j'aime beaucoup ce livre. Bon, mis à part la couverture que je trouve vraiment hideuse.
Oui, mais tu l'as franchi.
Oui, mais absolument. Et on peut la retirer, je crois. Mais c'est pas gentil pour la dessinatrice.
Bref.
Mais. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup ce livre parce que d'abord, alors là encore, je trouve qu'il s'attaque à une question d'époque, incontestablement, hein, qui est celle de la montée, disons, d'une opposition entre les femmes et les hommes, qui serait de plus en plus tranchée. Elle s'empare à la fois du terrorisme, de la manière dont des êtres peuvent être manipulés par d'autres êtres, et je trouve que c'est vraiment très 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 fin parce que je pense que c'est assez plausible en plus. Je trouve que on voit très bien ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'avec la montée du féminisme, il y a une espèce de backlash, il y a un masculinisme qui monte de l'autre côté. Donc, il me semble d'ailleurs qu'en plus cette opposition de genre, c'est une question quasi totalitaire parce que tout le monde peut y adhérer simplement, croire que effectivement mon camp c'est celui des hommes. Et je trouve qu'elle met très bien ça en scène. C'est très comme on dit, ça se lit comme un roman, mais ça tombe bien, c'en est un. Mais vraiment, moi, j'aime beaucoup ce livre. Ouais.
Elisabeth.
Oui, c'est un livre qui part d'un postulat très intéressant, parce qu'on le sait, la révolution féministe est la seule révolution qui n'a pas fait de mort. Mmh. Et Hélène Coutard, en tout cas ses personnages, partent aussi de l'idée qu'il y a une guerre qui est menée contre les femmes et le masculinisme n'a pas attendu le féminisme. Enfin, je veux dire, on n'a pas attendu le féminisme pour que les femmes soient tuées, violées, etc. Donc, ce n'est pas forcément une réaction au féminisme. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une guerre contre les femmes? Est-ce qu'à un moment, on prend les armes pour se défendre?
C'est et ça. On fait peur. Il faut leur faire peur aux mecs.
Elle prend ce postulat, elle le tire à l'extrême. Mais ça donne un roman, je trouve, pour un premier roman vraiment assez ambitieux, avec beaucoup de personnages, une intrigue très fouillée. Elle arrive à vraiment à faire vivre tout ça. C'est comme sa narratrice, enfin son héroïne Clara qui est nourrie de ses lectures féministes. Là aussi, c'est un livre qui est nourri de lectures féministes. Ça passe de Annie Ernaux à Valérie Solanas, l'autrice de Scum Manifesto, qui est vraiment un manifeste extrêmement violent pour les féministes. Et je trouve que c'est un livre qui fonctionne très bien dans ce qu'il a à dire. C'est vrai qu'on pense souvent à Virginie Despentes. Il y a même des pages qui ressemblent aux morceaux de bravoure dont est coutumière Despentes, avec des énumérations comme ça de tout ce que subissent les femmes. Donc je trouve que c'est un premier roman plutôt réussi.
Laurent.
Oui, effectivement, c'est un premier roman très original, prometteur, qui pose une bonne question, effectivement. Puisque guerre il y a, quid de la lutte armée? Sachant que le camp d'en face tue et viole à chaque seconde, il y a des statistiques qui sont rappelées, qui sont accablantes au début du roman. Oui, la question d'une réponse graduée se pose.
Mais il y a la question de la manipulation aussi. Et la fascination d'une femme pour une autre.
Oui, c'est pas une apologie de la violence. Elle arrive à éviter cet écueil-là, qui est quand même...
Voilà, il y a cet enjeu-là qui est quand même très important.
Donc les thèmes sont, pour toutes ces raisons, intéressants. Et alors, formellement, je trouve que les quelques petits cafouillages narratifs font ressortir combien le reste est au contraire maîtrisé et tenu. Par exemple, le parti qui a été pris d'une langue qui s'efforce de rester clinique, neutre et châtiée, et qui, presque malgré elle, ou du moins c'est l'impression que ça m'a fait, laisse parfois affleurer la rage et la blessure que le costume du dimanche, justement, cherche à contenir. Et ça donne une narration qui est sourdement tendue par, justement, ce conflit entre le propos et sa forme, et je trouve que ça dynamise la lecture. Juste une pensée pour la malheureuse Mona Chollet, qui est devenue bien malgré elle le symbole d'une nouvelle forme de masculinité suspecte.
Il à faut savoir, se méfier des mecs qui aiment bien Mona Chollet.
Voilà, entre guillemets, en un seul mot, le mec qui cite trop Mona Chollet, alors lequel qui a toutes les chances d'être un loup prédateur déguisé en mouton déconstruit. Donc apprendre à se méfier des alliés trop zélés, hein, c'est l'une des... multiples bonnes leçons de ce joli livre.
C'est un livre Patricia. Galvanisant quand elle écrit que l'égalité entre les hommes et les femmes affole plus que Daesh. Je pense qu'elle a... Je suis pas sûre qu'elle ait tort, au fond. Quand elle écrit aussi, elle a des phrases absolument qui sont des coups de feu. Tant d'hommes à punir. Alors, tant d'hommes, ça ne veut pas dire tous les hommes, parce que tous ne sont pas, et je la cite, des toréadors qui cherchent le meilleur angle pour planter la bête. Mais forcément, quand on en arrive à la lutte armée, il y a des dommages collatéraux et il y a des injustices. Et c'est ça, en fait, qu'elle dit. Et quand on en est sur le plan de la loi, par exemple, à l'heure actuelle, avec la règle des 3C, la contexte, comportement et conséquences, au contrôle coercitif, on se dit que c'est du pipi de chat par rapport à ce qu'elle raconte. Mais je pense que fondamentalement, je ne sais pas comment on s'en sortira, c'est aussi une faillite en tout cas d'un certain féminisme. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais en tout cas, la route sera longue.
Explosive d'Hélène Coutard est publiée chez Grasset. On termine avec Départ, titre qui compte un S entre parenthèses. Départ est le roman que l'auteur anglais Julian Barnes annonce comme son dernier livre, à l'issue d'une œuvre commencée au début des années 80, largement primée, notamment par le Femina et le Médicis ici. Le livre mélange fiction et autobiographie, puisque le narrateur est un écrivain âgé qui s'appelle Julian Barnes. Il livre ses réflexions sur la mémoire, sur l'écriture, le cancer du sang dont il est atteint, l'amour et le tout avec humour, voire malice et mélancolie. Julian Barnes l'annonce dès le premier chapitre. Il y a une histoire dans l'histoire, celle de deux amis, Stephen et Jean, qui forment un couple dans leur jeunesse, qui se séparent et puis qui se retrouvent 40 ans plus tard. Et à chaque fois, Julian Barnes joue le rôle de l'entremetteur. Le roman est finalement comme la conversation ultime que Julian Barnes entretient avec les lecteurs. Et il termine son livre comme ça. « Je vais poser un instant ma main sur votre avant-bras. Non, n'arrêtez pas de regarder. Et puis m'éclipser. » Non, n'arrêtez pas de regarder. Elisabeth.
Ouais, je pourrais pleurer là quand tu cites cette dernière phrase. Non, c'est un roman qui, paradoxalement, donne envie d'aimer la vie, de se lever et d'embrasser Julian Barnes, de le prendre dans ses bras. Effectivement, il s'adresse à son lecteur. Il y a une vraie complicité qui s'est instaurée au fil des livres et puis là, qui se noue encore plus, évidemment, dans celui-ci, si tant est que ce soit vraiment le dernier. Il a un grand respect pour son lecteur et il y a une vraie élégance aussi dans sa façon de parler de sa maladie, de la fin qui est proche. Mais il le dit quand il apprend qu'il est malade, il dit que c'est pas une sentence de mort, c'est une sentence de vie. Et sa première réaction, c'est écris cela. Parce que, en fait, la littérature, c'est ce qui va lui permettre de revivre le passé. Et contrairement à l'histoire qui est au milieu, qui est l'histoire d'amis qu'il a rencontrés à l'université, qui se sont aimés à l'université et qui se retrouvent 40 années plus tard, je crois, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Eux, évidemment, les retrouvailles, le retour de flamme, bon, sans divulgâcher, mais il y a un risque de désillusion. L'écriture, la littérature, elle permet de revivre son passé sans ce risque de la désillusion. Et en tout cas, il n'y a aucune déception à lire ce livre de Julian Barnes qui, je l'espère, je nourris même l'espoir un peu fou après l'avoir fermé que ça ne sera peut-être pas forcément son dernier.
Laurent ?
Comme chacun sait, l'idée de ce qui est peut-être le plus grand roman jamais écrit est venue à son auteur suite à la dégustation d'une tasse de thé. Or, comme chacun sait, et en dépit de la tasse de thé en question, la recherche du temps perdu n'est pas venue à un Anglais, mais cocorico à Marcel Proust. Julian Barnes ne nous en tient pas rigueur, au contraire. Sa francophilie, qui est absolue, qui va de Théophile Gautier à Georges Brassens, en passant évidemment par Flaubert
et son perroquet,
et par Proust, scintille tout au long de ce livre, où il passe, comme vous l'avez dit, en revue la vie, l'amour, la mort et la littérature, et où il prend congé de ses lecteurs avec une élégance et un tact qui font monter l'eau aux yeux. C'est exemplaire et délicieux à lire, parce que plus il exprime sa francophilie, et plus elle se manifeste avec une anglicité et une rosbifitude foncière et exquise. L'humour, l'autodérision, pince sans rire, tout ce que vous voulez. La Rochefoucauld disait « Peu de gens savent être vieux ». Julian Barnes le fait mentir et on se souhaite à soi-même de savoir être non seulement vieux, mais carrément subclaquant avec autant de grâce et de panache que lui.
Patricia.
Mais en même temps, il dit bien que la sérénité des vieux, c'est une fable. Donc, il n'élude rien. Et c'est ça que moi, j'ai aimé chez lui. Mm-hmm. Il ne fait pas pleurer, mais il n'est pas non plus en train de dire « Oh là là !»
Oui, il ne dit pas « La vieillesse, c'est génial, loin de là. »
Ah, pas du tout. Alors, je ferai juste une parenthèse qui vous donne un peu l'idée qu'on peut avoir de son humour, quelquefois. Souvent, c'est plus fin, mais ça m'a trop fait rire. C'est qu'on apprend, si je vais le raconter, Elisabeth, je suis désolée, on apprend qu'en Angleterre, ce ne sont pas des obus, ce n'est pas un obus dont on peut se tromper d'endroit. Enfin, je sais pas, qu'on retrouve dans un rectangle. Tom, tu n'as pas entendu cette nouvelle dernièrement? Rebecca ne me regarde pas comme ça. Mais c'est le buste.
Non,
c'est le buste de
j'ai
Napoléon.
J'ai la sensation qu'on s'égare.
Oui, alors, un Anglais un jour a été trouvé comme ça avec un buste de Napoléon. Là où vous pensez.
D'accord.
Non, mais bon, ça c'est pour l'anecdote, parce que par ailleurs,
mais
je trouve que
cette anecdote. Y a pas,
mais oui, c'est vrai, je t'assure.
C'est d'accord.
C'est une merveille crépusculaire de bout en bout.
C'est
et
c'est
un livre qui lui ressemble.
Bien.
Qui lui ressemble. C'est un homme
c'est la
d'une élégance folle.
Et... Ah, ouais.
Mais oui, ça... mais il n'y a que lui.
Je pense qu'il était important d'insister sur la question. Oui. Philippe, rapidement.
Oui, oui, je ne ferai aucune remarque sur le bicorne de Napoléon qui lui a posé quand même un problème sérieux.
Il le dit.
Non, simplement pour dire que, oui, moi j'ai, comme on dit, l'esprit britannique, c'est l'amateurisme. Là, il est, devant la mort, on est tous amateurs. Quoi. Personne ne peut dire, je l'ai déjà joué, je vais la refaire. Donc là, il est plus britannique que jamais. Et évidemment, on voit très bien que l'anecdote qu'il raconte sur ce couple qu'il a reformé, c'est très secondaire. Ce qui nous intéresse tous, c'est évidemment tout ce qu'il va dire sur, il est comme un feu qui s'étouffe, quoi. Et c'est évidemment très émouvant. Il y a une chose quand même, c'est qu'on l'a connu, les gens qui font leur grand concert de départ, d'adieu, et puis qu'ils le refont tous les deux ans. Donc on se dit que lui, déjà, par exemple, il pose une question. Quand on s'est engagé auprès de ses amis à ne jamais écrire sur leur vie, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Oui, mais ils sont morts.
Oui, bah, en tout cas, il le fait. Donc on peut se dire que sa promesse de ne pas écrire un autre
même
livre, il ne la tiendra pas. Juste une chose que je veux dire sur la couverture. Il y a un chien sur la couverture.
Décidément.
Ça, c'est un vieux coup des auteurs, des écrivains, mais il marche toujours. C'est de montrer en fait qu'un chien, c'est toujours plus humain qu'un humain, quoi. Et évidemment, ça tire des larmes. Et bon, il a aussi ses troueries, quand même, Julian Barnes. Il sait, mais c'est très beau.
Départ de Julian Barnes est publié chez Stock. Et c'est l'heure de vos coups de cœur. On commence avec toi, Laurent.
Je voudrais attirer l'attention sur le livre de Clovis Gou. Avec un X à la fin, comme chou, hibou, caillou, qui est paru au Cherche Midi et qui s'intitule « Au cœur de la country » et qui est sous-titré « Phénomènes et légendes ». Alors, le texte est aussi réussi que le titre est tartignol, c'est-à-dire dire à quel point il est remarquable. La country music est un univers merveilleux, trop souvent réduit à sa caricature, en France, mais aussi aux États-Unis. Et le livre fournit une excellente boîte à outils ou carte routière pour quiconque voudrait aller justement au-delà de la caricature. C'est accueillant et pédagogue pour le béotien qui découvre, et suffisamment savant, voyez-vous, pour emporter l'approbation de l'initié, dont la mémoire se trouvera rafraîchi et même enrichi de divertissants petits points de trivia. Donc, bravo à Clovis Gou, avec un X à la fin. Bravo, et je dirais même hi-ha.
Clovis Gou, d'ailleurs auteur d'un excellent ouvrage consacré à Karen Carpenter.
Merveilleux.
Ça s'intitulait « La disparition de Karen Carpenter ». Philippe, c'est à toi.
Moi, je voudrais parler d'un livre d'un écrivain qui s'appelle Valentin Retz, qui a écrit un livre chez Gallimard qui s'appelle « La longue vie ». Et je trouve que c'est son plus beau livre. C'est pas son premier roman, mais c'est peut-être son 4e ou 5e. Mais c'est un livre magnifique parce que c'est un livre qui entrelace trois histoires, trois personnages. Un personnage dans l'Antiquité, un personnage qui travaille sur l'immortalité, un personnage qui est traversé par leurs histoires. Et peu à peu, les trois histoires se mêlent. Ça devient comme une espèce de cathédrale de questions et très étrange. Et c'est un hommage à la littérature. C'est un très beau livre. Vraiment, je ne peux souhaiter, comme on dit, que longue vie à cette longue vie de Valentin Retz chez Gallimard.
Pour ma part, je vous recommande Enquête, en deux mots donc, d'un grand peut-être, avec ce sous-titre « A-t-on encore besoin de la littérature ado ?» Alors, les auteurs Tom et Nathan Levesque répondent évidemment oui, puisque ce livre est le 2e tome d'un guide qu'ils consacrent à cette littérature ado. Mais si Tom et Nathan Levesque posent cette question provocatrice, c'est parce qu'ils partent de ce constat. Les jeunes lisent de moins en moins. Et pour y remédier et leur donner envie de lire, il y a ce guide. Et eux partent, tiennent compte de leur goût et de leur pratique réelle de la lecture, c'est-à-dire en écoutant des livres audio, en lisant sur écran. Et résultat, dans ce guide, vous trouvez une liste de 25 livres incontournables, édités récemment, des nouvelles, des témoignages de jeunes lecteurs et lectrices, des interviews et un éclairage passionnant sur ce qu'on appelle la dark romance et qui remporte énormément de succès auprès de jeunes lectrices notamment. Donc, en quête d'un grand peut-être, a-t-on encore besoin de la littérature ado, c'est très précieux, de Tom et Nathan Levesque, c'est publié par les éditions du Grand Peut-être, au prix de 18,50 €. Elisabeth.
Moi, ce n'est pas de la dark romance, mais une narco-romance qui s'appelle Sicario bébé de Fanny Taillandier, ça paraît chez Rivage. On suit un jeune couple d'amoureux, Blaise et Jen. Ils ont 18 ans, ils vont encore au lycée et puis un jour ils apprennent que Jen est enceinte. Alors tout de suite Blaise se demande comment il va pouvoir subvenir aux besoins de la future petite famille. Évidemment, premier réflexe, il va sur ChatGPT pour voir comment on gagne de l'argent facilement. Et puis finalement, c'est son ami Bobby qui va lui donner la solution, qui n'est pas forcément bonne puisqu'il va l'entraîner dans un coup. L'idée, c'est de tuer quelqu'un pour le compte d'un gros bonnet de la drogue. Donc, on part comme ça dans une espèce d'odyssée qui est plus rocambolesque que criminelle. Et en fait, ce qui vraiment nous embarque comme lecteur, c'est la langue de Fanny Taillandier, la langue qu'elle donne à ses deux narrateurs, qui sont donc Blaise et Jen, où elle fait s'entrechoquer les voilà et les nonobstant. Il y a énormément de tendresse pour ces personnages, beaucoup de burlesque aussi. Et en même temps, c'est une ode à la jeunesse, à la fois très drôle, très politique et d'une très grande justesse.
Sicario bébé de Fanny Taillandier, c'est chez Rivage. Et on termine avec toi, Patricia.
Un inédit d'un auteur à ma grande honte que je n'avais jamais lu, d'Alfred Döblin. Je vais me rattraper. C'est lui qui a écrit Berlin Alexanderplatz, qui a été adapté pour une série télé par Fassbinder. On l'a comparé d'ailleurs à Ulysse de Joyce. Et là, c'est donc un inédit publié en France, chez Gallimard. Ça s'intitule « Mon, mer et géant ». C'est absolument sidérant. Il imagine, Döblin, le 23e siècle. Donc l'histoire a pris de l'avance, parce que bien des choses qu'il imagine sont déjà là. Le réchauffement climatique, les migrations, les armes chimiques, la folie génétique et le Groenland, que certains ont décidé non pas d'acheter, d'annexer, mais de faire fondre. Je vous assure que c'est un truc de dingue, c'est absolument formidable. Mon, mer et géant, le tout au pluriel chez Gallimard.
D'Alfred Döblin. Patricia Martin, Elisabeth Philippe, Laurent Chalumeau, Philippe Trétiac, merci d'avoir participé à cet épisode du Masque. Rendez-vous jeudi prochain, 19 février, pour l'enregistrement d'une nouvelle émission consacrée à l'actualité littéraire et pour la remise des prix des auditeurs du Masque, donc les noms des cinéastes qui, selon vous, ont réalisé les meilleurs films français et étrangers de 2025, vous seront révélés. Stéphane Le Guénec réalise Le Masque et la Plume et c'était avec Jason Taous, Luna Bricotto et Stéphane Touvenin aujourd'hui. Merci à Ilinka Negulesco pour la coprogrammation et la préparation de l'émission avec Zora Desgouttes. À dimanche, pour des enthousiasmes ou des désaccords, une liberté critique dans tous les cas et sur France Inter, évidemment.